bienvenue dans l'émission Route 66, l'émission du blues et des autres musiques Roots sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Salut à tous, bienvenue dans Route 66 avec une émission qui aujourd'hui, une fois de plus, sera exceptionnelle. Donc ce n'est plus vraiment des émissions exceptionnelles puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de vous en servir. Bouboul, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation.
Ah, je suis content que de revenir un peu vers ce temps-là, de discuter un peu de cette époque qui a été une époque extraordinaire. Que les jeunes, bien sûr, n'ont pas vécu, mais moi, j'ai commencé à vivre le rock'n'roll dès le départ, dans les années 60, donc j'ai tout connu. Ouais. Les grands rockers, jusqu'au groupe. Bien sûr, j'ai écouté, comme tout le monde, les Chaussettes Noires et les Pirates. Mm-hmm. Mais très vite, je me suis tourné vers des groupes américains, comme Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour je rencontrerais ces gens-là.
Alors ça, justement, on en reparlera un peu après, parce que c'est vrai qu'il y a de belles rencontres quand même qui ont jalonné ton parcours, et des grands moments scéniques également. Cependant, avant de parler un petit peu plus spécifiquement de cette période, on va, comme il se doit, présenter des nouveautés dans l'émission. La première d'entre elles est un album d'un bluesman qui nous vient d'Autriche. Tu vois, comme quoi, en Europe, il y a vraiment beaucoup d'immenses musiciens. C'est Monsieur Hank Tissink qui nous sort un album dans les semaines à venir qui s'appelle Slow Train. Et je vous propose, en guise d'introduction, de passer justement le titre éponyme. Et vous verrez sur ce morceau, notre ami bluesman autrichien ralentit le tempo, hein, puisque c'est pas du blues rock comme il a pu en faire dans le passé, mais plutôt un mixte entre ballade acoustique, morceaux blues roots, war folk, avec une pointe de gospel. C'est très bien pour commencer l'émission, tout en douceur avant qu'on ne parte dans un rock'n'roll déjanté avec Bouboul. Allez, place à la musique.
Such a long time singing the blues up and down this road. Seen good times and I've seen bad times sometimes, but I wanna go back to the time and place I used to know. Let me ride, ride on the slow train. Carry me home, carry me home. Drank wine with kings and queens, I've seen right and wrong. But now I'm feeling kind of tired and weary. Wish a slow train come and take me home. But let me ride, ride on the slow train. Carry me home, carry me home. And let me ride, ride on the slow train. Carry me home, carry me home. Thank you. will come when my traveling days are over. At the end of this winding road where the journey ends, don't you bury me, boys, just leave me standing at a crossroads. I know a slow train let me ride, ride on the slow train. Carry me home, carry me home. Let me ride, ride on the slow train. Carry me home. Carry me home. Let me ride, ride on the slow train. Carry me home. Carry me.
Hello, my name is Bjørn Berge, the famous blues player from Norway. You're now listening to the show Route 66 at RDL. Rock on.
Et après Hank Tissing, c'est une autre nouveauté qu'on vous passe dans Route 66 aujourd'hui, à savoir Rufus de Björn Berge, extrait de son album I'm the Antipop. On connaissait les Antichrist, mais maintenant il y a les Antipop. Alors Björn Berge, son album, il pourra le défendre sur scène le 10 mai prochain à la Lettrice. C'est également l'une des raisons pour laquelle je souhaitais à diffuser l'un de ses morceaux aujourd'hui, le 10 mai, Björn Berge à la Lettrie. Et le même soir, juste à côté, il y a une salle qui s'appelle le Molodoy, où il y aura nos amis les Roots Noise qui passeront, donc c'est peut-être l'occasion de se faire deux beaux concerts dans la même soirée. Allez, on rentre dans le vif du sujet, à savoir le rock'n'roll et le rock'n'roll roots, le rock'n'roll garage, celui qu'a si bien défendu au sein de son groupe les Rhythm Checkers, Bouboule, qui est notre invité aujourd'hui. Alors Bouboule, avant que je commence à te poser des questions pour en savoir un petit peu plus sur cette période et puis un peu plus sur le groupe dont tu faisais partie, puis un peu plus sur toi également, je tenais quand même à passer un premier morceau qui devrait te faire plaisir. C'est extrait du dernier album studio en date de Jerry Lee Lewis, un duo avec quelqu'un que tu apprécies également beaucoup, à savoir Little Richard, et c'est une reprise des Beatles, hein, donc je crois que c'est trois influences qui finalement te conviennent bien. Le morceau, c'est I Saw Here Standing There, extrait de l'album Last Man Standing. Jerry Lee Lewis et Little Richard, un morceau que je dédie à Bouboule ce soir. C'est parti.
Alors ça, ça, c'est du rock'n'roll, hein.
One, two, and three, and four. She was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare.
Jerry Lee Lewis, après Little Richard, c'est une autre légende du rock'n'roll que nous allons retrouver, à savoir Bouboule, le leader des Rhythm Checkers, groupe qui a vraiment sévi dans le milieu musical rock'n'roll français au milieu des années 60. Alors c'est vrai, les plus jeunes membres de notre auditoire ne connaissent peut-être pas ce groupe, et pourtant vous allez comprendre ce que vous avez raté en entendant les morceaux qu'on aura l'occasion de passer tout au long de l'émission, parce que c'est vrai qu'on peut dire que ce groupe était vraiment à la pointe du rock'n'roll, et même avec un son très garage parfois. Alors pour commencer cet entretien, Bouboule, on va juste un petit peu parler généralité. Est-ce que tu peux un peu me parler justement de cette scène rock'n'roll française du début des années 60, et peut-être plus particulièrement de la scène alsacienne qui était très prolifique, hein. Les gens ne le savent plus maintenant, mais il y avait vraiment énormément de groupes. Je crois que ça se comptait par centaines au début des années 60, des groupes qui ont été directement influencés par le phénomène rock'n'roll. Alors comment tu peux l'expliquer?
les années 60, déjà, je pense qu'on a eu une grande chance en Alsace, c'est d'avoir les Américains qui étaient là à Strasbourg, qui étaient basés, et qui nous ont amené cette musique rock'n'roll. Puisqu'au départ, le rock'n'roll, nous, on ne l'écoutait pas. Nous, on écoutait Salut les copains. Et puis, grâce à ces gens-là, on a commencé à écouter Little Richard, Jerry Lewis, Fats Domino. Et pour moi, ça a été une révélation. Je dis, merde, quand j'entends ces gens-là, j'aimerais bien chanter comme eux. J'aurais jamais pensé que j'y arriverais un jour. Parce que moi, je voulais être batteur, j'ai jamais voulu être chanteur. C'est jusqu'au jour où le chanteur est tombé malade et on a découvert que le batteur chantait mieux que le chanteur. Et là, je me suis mis à chanter. J'ai dit, voilà, je vais chanter.
Et justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton cursus musical avant les Rhythm and Shakers? Est-ce que tu avais déjà un parcours assez défini? Tu as fait partie d'autres groupes?
Des troupes très connues, même sur Strasbourg, qui étaient même très connues, qui a été le groupe Michel et les Jets, qui est un groupe très connu, même un des premiers. Il y a eu aussi les Diables Rouges.
Donc tu fais partie des Diables Rouges aussi?
Non, mais on mais jouait souvent ensemble.
Vous avez l'occasion de,
dans les années 60,
de partager les affiches.
On jouait le même répertoire.
Ouais, donc, d'accord.
Souvent, on s'intercalait entre nous. Et, puis, hop. Et bon, Michel et les Jets, ça c'était très bon. C'était du Beatles à la française. C'était déjà un avant-goût des Lionceaux, si on veut dire ça. Mais bon, c'était pas trop mon truc. Moi, je préférais la musique noire. C'est là où j'ai rencontré des copains. Un deuxième groupe, et pour moi, c'était le meilleur où j'ai jamais joué, qui s'appelait les Skate Five, qui ont été très connus sur Mulhouse. Et les anciens de Mulhouse doivent reconnaître ce groupe, où, à mon avis, avaient les quatre meilleurs musiciens d'Alsace.
Mais d'ailleurs, pour peut-être que les gens ne le savent pas forcément, mais je crois qu'il y a une petite anecdote à travers une chanson d'Alain Bachung, justement, puisqu'il y avait souvent, tu parlais des Diables Rouges, qui avait l'occasion, je crois, de se produire de temps en temps à la foire de Strasbourg, dans un stand qui s'appelait Chez Vanda.
Chez Vanda, oui.
Ce qui avait été dans la chanson de Bachung.
On appelait ça Chez Papa Légal.
Voilà.
Donc, c'était un stand de striptease.
Ouais, c'est ça.
Donc, et lui, il avait très vite compris que les gens n'étaient pas trop attirés vers le striptease, mais plutôt vers le rock'n'roll. Et là, il a commencé à prendre des groupes, et c'était plat tous les soirs.
Alors, est-ce que tu
et
peux...
Et Bachung, c'est les sirènes de chez Vanda.
Ouais, c'est ça, les sirènes de chez Vanda, c'était Gabi ou Gabi, je crois, le morceau. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc il devait être peut-être spectateur de certains de ses concerts.
Je pense,
probablement.
Yves l'a compris.
Yves l'a également, ouais.
Alors, parce qu'à un moment, il habitait à Vendenheim.
Jacques Yves l'a, ouais.
Yves l'a.
Et tu as intégré donc ce groupe, les Rhythm and Shakers, alors qu'il était déjà créé. Alors comment s'est passée justement cette intégration, dans la mesure où au départ c'était un groupe qui était composé de trois Allemands et d'un Néerlandais. Donc comment tu as pu...
Un des Allemands les a quittés.
D'accord.
Bon, c'est un groupe où tout le monde chantait. Mais eux, ils voulaient un chanteur devant, c'est-à-dire un chanteur solo. Et puis ils sont venus me voir justement avec les Skate Five. Et quand ils ont entendu ce que je chantais, le Little Richard et tout ça, ils étaient dingues de ça. Ils m'ont demandé de venir avec tout de suite. J'ai plié mes bagages, je suis parti tout de suite avec eux. On est tout de suite parti à la Côte d'Azur et ça marchait du premier coup.
Et donc à ce moment-là, tu n'étais plus batteur du tout. Tu étais uniquement chanteur ou
chanteur-batteur? Tu
étais uniquement chanteur, d'accord.
Uniquement chanteur.
D'accord. Et ça, c'était en quelle année? Fin 65, 66?
Mai 66, exactement.
Mai 66, exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux me parler un peu du répertoire? Tu m'as parlé évidemment de tes influences Little Richard. Donc c'était déjà
du
un mix entre
du rock'n'roll noir, mais c'était plutôt. C'était très mix, c'était Jimmy Reed aussi.
D'accord, donc il y avait quand même une part de blues.
Ouais. Il y avait vraiment des trucs, beaucoup de trucs américains.
D'accord.
Et aussi de la British Beat qui se faisait, les Mercy Beats, les Hollies, les Wayne Fontana.
Qui
connaît
les
Beatles, mais qui jouait déjà avant les Beatles.
Alors, est-ce que tu peux, justement, toi, tu l'as un peu évoqué, est-ce que tu peux revenir sur vos premiers concerts qui avaient lieu au Puce Palladium à Juvent-les-Pins? Je crois qu'il y a même une petite anecdote.
Ouais, c'est un truc comme assez marrant.
Tu as dû changer en fait ton nom, tu as dû le transformer, ton surnom, en tout cas ton nom de scène, tu as dû le transformer en allemand, c'est-à-dire que Bouboule est devenu Boulès. Alors, est-ce que tu peux.
Parce qu'à la Côte d'Azur, toutes les boîtes, ce qui les intéressait, c'est d'avoir des groupes anglais. Ou alors allemands. Hollandais à la
Les groupes allemands avaient la cote. Donc,
la cote, parce que c'était très. On appelait ça le heartbeat, déjà. Hard dedans. Mais les groupes français passaient pas. Ils aimaient pas les groupes français, je sais pas. Pourtant, il y en avait des très bons. Et puis, à ce moment-là, on m'a surtout dit ne parle pas en français, parlez en allemand. Alors on parlait qu'en allemand, il fallait surtout pas dire que, parce que là, il avait honte d'avoir un groupe français.
D'accord. Non, mais ça, c'est donc le propriétaire du lieu qui a demandé ça carrément, quoi. C'est d'accord. Incroyable. Et après, bon, le succès a démarré relativement vite.
Très vite.
Et vous vous êtes retrouvé en un claquement de doigts, j'allais dire, à l'Olympia, lors d'une affiche prestigieuse, puisque vous partagiez la scène avec des gens tels que Vince Taylor et Jerry Lewis.
Oui, donc, il y avait Jackie Edwards, il y avait aussi, je ne me trompe pas. Bah, on a, après trois mois et demi à Jouan-les-Pins, on a eu beaucoup de contacts avec des gens du métier, notamment Paul Naref qui est venu. Beaucoup de gens comme ça, je pense qu'un des producteurs a dû nous voir, parce que c'est très rare qu'on demande à un groupe de venir à l'Olympia. Souvent, il faut demander, il faut s'agenouiller, il faut faire ce qu'ils demandent, mais là, c'était vraiment... on nous a demandé de venir.
D'accord. Et donc,
je pensais pas du tout que ça marcherait.
Donc un choc, on te propose comme ça, juste après avoir intégré un groupe, au bout de quelques mois, de te proposer la scène de l'Olympia.
Pour tout le monde, pour eux aussi. Parce que ils pensaient tourner dans les boîtes et voilà, gagner notre vie comme ça, mais là, faire ça comme ça, c'est surtout l'Olympia. Alors là, Alors commencer par la meilleure salle.
Ouais, c'est la salle la plus mythique, évidemment. Alors, je crois que lors de ce premier passage, il n'y a pas eu de captation de son. Vous n'avez pas été enregistré. Par contre, c'est lors de votre deuxième passage que là, vous avez enregistré.
C'est live par l'équipe d'Europe numéro 1.
Voilà, et il en résulte un super 45 tours, comme on disait à l'époque, un super 45 tours live. Et là, justement, je vous propose d'écouter un extrait de ce super 45 tours. Et là, les gens qui ne connaissent pas les Rhythm and Shakers vont, comme je le disais avant, vont vraiment comprendre leur douleur. Vous allez voir à quel point c'était du délire. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite, justement, un morceau de Little Richard. C'est un grand classique, Long Tall Sally. Et là, c'est un avis personnel, mais j'en ai entendu des versions de Long Tall Sally par beaucoup d'artistes, mais je crois que celle des Rhythm and Shakers est vraiment l'une des rares qui puisse rivaliser avec l'original, et si ce n'est par le côté folie lié au public, je trouve même que par le moment ça la dépasse dans le délire. Allez, les Rhythm and Shakers, Long Tall Sally, écoutez plutôt.
Vive le rock'n'roll et vive les Rhythm and Shakers. I'm on a town in Mary, one of the towns, every kind of bloody body right now.
Je vous avais prévenu, les Rhythm and Shakers, c'était quelque chose, et surtout là, capté en live à l'Olympia. Alors, Bouboule me précisait hors micro qu'en fait, ils avaient un petit peu calqué leur version sur celle des Beatles.
C'est ça, tout à fait.
Alors, après ce premier Olympia, est-ce que vous êtes revenu tout de suite en Alsace? Vous avez continué un petit peu à graviter dans le milieu parisien?
On est resté sur Paris. D'ailleurs, après l'Olympia, on a fait connaissance de M. Chauvière, qui était le directeur de la locomotive, qui nous a gardés pendant un mois, tous les soirs, à la locomotive. Mmh. Et ça, c'est une chose très rare aussi, qui n'est jamais arrivée, qu'un groupe reste pendant un mois, tous les soirs, à la locomotive. Mmh. En ayant comme première partie les Pretty Things. Et c'est les Trolls.
C'est incroyable.
Ça, c'est... ça, j'aurais jamais pensé. Parce
ouais, c'est fou. C'est pas invraisemblable oui. Qu'on en parle comme ça oui. Maintenant, mais pourtant. Et donc, quel était le contact aussi avec les spectateurs parisiens quand ils apprenaient finalement que vous étiez un groupe provincial, alsacien, qui plus est. Est-ce que les gens, ça les marquait ou alors non, c'était quelque
non,
chose
pas
qui
du tout,
complètement
pas
indifférent
du
et ils voulaient vraiment
départ,
venir
un
pour
peu,
la bonne musique.
Mais dès qu'on commençait à jouer, c'était fini, on était... On était européens.
Ouais. Et la locomotive, c'était quand même le club à la mode à l'époque. C'était l'endroit où il fallait aussi se montrer. Donc je pense que tu as eu l'occasion de côtoyer quand même pas mal de gens du milieu musical à ce moment-là.
Musical, artistique, ouais. Tout. José Arthur. Ouais.
Tu as une anecdote comme ça qui te reviendrait sur cette période, quelque chose de rigolo qui vous serait arrivé sur scène, à la locomotive, ou alors dans les coulisses, ou dans le club en lui-même, des choses un petit peu insolites qu'on puisse passer.
On ne voulait pas aller chercher le salaire, par exemple, parce que M. Chauvière était... Et puis, il disait, non, ce soir, c'est toi qui cherches. Il disait, oh, lui, je ne veux pas le voir, il est tout plein de poils. Et tout. Bon, mais c'était marrant, c'était gentil, c'était un garçon très gentil, mais ce qui nous a beaucoup aidé. Parce que rester sur Paris pendant 3 mois et jouer tous les soirs, c'est très dur.
Ouais, j'imagine.
Maintenant, peut-être plus, mais à l'époque, c'était très dur. Ouais. Et puis après, on a fait le bus Palladium, mais alors le vrai bus Palladium.
D'accord, ouais.
J'ai rencontré James Arch, qui nous a pris sur contrat, qui nous a proposé de faire les Jeux Olympiques en 68. Malheureusement, les Checkers n'existaient pas. Mais je les ai fait quand même
avec un autre groupe. Ouais. Là aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, après cette période de folie sur Paris, comment s'est passé le retour en Alsace? C'était dur? Vous aviez un petit peu un casque
non,
de plomb sur la
même...
tête? Est-ce qu'il y a eu aussi un accueil particulier? Est-ce que les gens en Alsace vous avez suivi la presse, par exemple
Même pas.
Ouais. Donc, il n'y a pas eu de retombées, finalement,
chez
vous.
Comme je dis,
quoi.
Je pense qu'on était plus connus à l'extérieur de l'Alsace qu'en Alsace
ouais.
même.
Ouais. Donc, le ça, retour s'est fait tout à fait normalement.
Tout à fait normal.
Ouais. Et donc, à ce moment-là, vous avez quand même continué à jouer chez nous. Quels étaient les endroits dans lesquels vous aviez l'occasion de vous produire? Évidemment,
le
je pense le Kibitz. Hein.
Ouais. Le plus, c'est le Kibitz. Ensuite, il y a eu la Western Farm à Brumath, qui s'appelait après le Stardust. Mais bon, c'était plein, mais c'était pas la même chose. Nous, on préférait les petites caves. On était bien serrés les uns contre les autres. C'était beaucoup plus truc. Et en vraie salle, il n'y en avait vraiment pas. Ou alors, c'était des dancing. Il fallait passer en spectacle quoi, pendant une heure, et puis après, c'était le bal. Mais là...
Et que, donc, comme je le disais auparavant, vous avez donc eu l'occasion de faire un deuxième Olympia. Et donc, toujours accompagné de grandes vedettes, puisqu'après Vince Taylor et Jerry Lee Lewis, là, vous avez eu l'occasion de passer sur la même scène que Chuck Berry. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'a été enregistré le morceau qu'on s'est passé auparavant. Donc là, la prestation a été... vous avez eu vraiment les louanges de toute la presse parisienne, y compris la presse spécialisée. Voilà, parce que justement, j'ai noté une phrase de Jacques Barsamian dans la revue Rock and Folk de l'époque, qui t'a carrément comparé à Screaming Lord Sutch pour ton côté scénique.
C'était un peu ça. Ouais. Avec les cheveux, la tenue un peu, la voix aussi, la voix cassée, un peu la folie aussi.
Ouais.
Le spectacle, nous on aimait bien le spectacle, la folie.
Et comment ça se caractérisait sur scène, ça? Vous faisiez des choses un petit peu insolites ou
vous
communiquiez avec
ça,
le public
c'était... Moi j'y pensais même pas, ces trucs-là. Bah, c'est après la fin du concert que les types ont dit « Merde, c'était génial, qu'est-ce que t'as... » J'ai dit, attends, moi, je ne me rappelle même pas de ce que j'ai fait. C'était inné, ça venait comme ça, puis hop, tac, tac.
Alors, si on est vraiment heureux d'avoir
la
captation sonore, mais qu'est-ce qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu de captation vidéo à cette époque-là, hein, parce que vraiment...
Ouais, c'est dommage. Ça,
c'est vrai que...
Et je suis sûr qu'il y en a, mais bon, d'après la télé, il n'y en a pas.
D'accord. Ah ouais, tu penses que...
Il paraît qu'ils ont détruit, filmé au jour le jour, et puis...
Ouais.
Ce qui m'étonnerait, d'ailleurs, ils ont des archives.
Ouais, bien sûr, ouais. Il faudrait voir avec Lina,
parce
peut-être.
On a fait plein d'émissions. C'est impossible que ça n'existe plus.
Ouais. Donc, à l'occasion de cette Olympia, tu as évidemment rencontré Chuck Berry.
Ah, ça, c'était mon rêve.
Ouais. Donc, comment ça s'est passé,
cette
rencontre?
Ça, c'était merveilleux. Ça, c'était... rentrer dans les coulisses, s'asseoir au bar et être assis à côté de Jerry Lewis et boire un coup avec Jerry Lewis. Mmh. Et qui vous considère comme un ami, mmh. Ça c'est... Mmh. Mmh.
Donc aussi bien Jerry Lewis
pour
que Chuck Berry
ont été des... Ouais, lui, c'est ça, donc, j'étais pas le petit le
c'était
petit
la famille, quoi.
Là,
ouais. Mmh.
Non, non, je... Mmh. Il faisait partie de la famille.
Ah ouais. Et vous n'avez jamais eu de problème justement avec ces têtes d'affiche qui parfois pouvaient craindre justement les groupes de première partie comme vous qui faisaient
oui,
un tabac.
Oui, oui, ça c'est Monsieur Jerry Lee Lewis par exemple, c'est plus était très tatillon quoi. Ouais. C'est-à-dire avant que l'on propose les morceaux, mm-hmm. il les écoutait pour voir si on les faisait pas mieux que lui.
D'accord. Mm. Donc il y avait toujours quand même une méfiance. Hein.
Ah oui, 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 ouais. Oui. Oui. Ouais. Chuck Berry, moi, lui, c'était.
D'accord.
Allez-y, faites ce que vous voulez. Du moment que c'est du Chuck Berry.
D'accord. Donc, le grand souvenir, c'est surtout Chuck.
Pour moi, c'est Chuck Berry. Ça, ouais. c'était le rêve de ma vie, ouais. de rencontrer un jour ouais. Chuck Berry.
Et tu as eu l'occasion de le recroiser depuis ?
Plusieurs fois. On a fait plusieurs concerts avec d'accord, lui. Ouais. Après, sur Nancy, sur Metz, sur Strasbourg. Mmh. Jerry Lewis aussi, d'ailleurs. Mmh. À la Mutualité à Paris, Strasbourg, Nancy aussi. Oui. Mmh. 3-4 fois.
D'accord, ouais. Donc quand même des contacts réguliers.
On se rencontrait sur des tournées.
D'accord, ok. Et puis autre rencontre justement à l'issue de cette Olympia, vous avez eu les félicitations, enfin il y a quelqu'un qui est venu te voir pour te féliciter après ta prestation scénique, c'était Eddie Mitchell.
Ah Eddie Mitchell, lui c'est... Ouais.
Donc pas de l'appareil.
Un très grand nom lui, vraiment un grand bonhomme. Mmh. Un très grand bonhomme qui aime le rock. Mmh. Ça je dois lui laisser, il est tout de suite venu, il m'a serré la main, il a dit toi, c'est du bon.
C'est du bon et c'est si bon qu'on va s'en repasser une tranche d'ailleurs avec un nouvel enregistrement des Rhythm and Shakers. Bah tiens, toujours issu de cette Olympia mythique. Pourquoi pas, hein, on se fait plaisir. Un grand classique du blues, Kansas City, mais version boubou les Rhythm and Shakers. Allez, on part en musique.
Thank you, merci. Yeah.
Et après cette belle version de Kansas City, vous voici à nouveau à l'écoute de Route 66. Je vous rappelle que l'émission, vous pouvez la retrouver sur Internet en pianotant sur laroute66.free.fr. Vous pourrez retrouver vraiment des centaines d'interviews. Il y a 260 interviews de transcrites, 260 interviews d'artistes, de nombreux reportages. Je ferai d'ailleurs bientôt un reportage sur la venue de Bouboule dans l'émission. Puis des centaines de photos dans les galeries, évidemment. Ainsi que les playlists, hein, je vous le rappelle, si vous cherchez à retrouver des titres de morceaux qu'on vous diffuse, n'hésitez pas à consulter la rubrique du même nom. Alors justement, parmi les interviews que j'ai eu l'occasion de réaliser tout au long de, enfin depuis que j'anime cette émission, il y a une interview d'un rocker français que tu as bien connu, qui est Moustique, avec qui tu avais bien sympathisé. Alors justement, tu peux un petit peu me parler de lui ou...
Ben, Moustique, je l'ai rencontré à l'Olympia, justement après ce passage. D'accord. Avec Chuck Berry, et lui était fou. C'est un fou de Little Richard.
Ouais, complètement, il est toujours.
Par jour, il a dit, je te ramène à la maison, on va à la Bastille, tu peux dormir chez moi, tu peux manger chez moi. J'ai dit, non, attends, on va pas aller jusque-là, on se connaît à peine. Un type extraordinaire, vraiment, je crois qu'il m'a emmené d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait rentrer au Puce Palladium.
D'accord. Ok. Et Moustique qui revient un petit peu sur le devant de la scène, hein. Il fait un petit peu des concerts de temps en temps.
J'avais vu
encore.
Un truc à la télé. Ouais,
il est toujours présent, quoi. Fidèle à son image, hein, toujours. Personnage assez extravagant, hein, mais qui mérite d'être connu. D'ailleurs, je vous invite à lire son interview sur notre site internet. Et là, chose un petit peu particulière, on te propose un contrat très intéressant, mais en solo. On te veut toi, mais pas avec le groupe.
Oui.
C'est alors là, pareil, tu refuses alors.
J'ai raté. Je me suis toujours considéré comme un membre du groupe.
Ouais.
Et ça, c'était, je crois, ma grande bêtise. Je l'ai réalisé qu'après, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis, c'est un peu aussi pour ça que le groupe s'est dissous vers la fin.
Ouais, ouais.
Parce que j'ai eu plusieurs demandes, notamment des disques Flèche, Claude François. J'ai toujours refusé, j'ai dit non, je veux qu'on reste le groupe, on est un groupe, on n'est pas, je ne suis pas un chanteur.
Et à ce moment-là, pourquoi vous n'étiez pas le groupe? C'était pas pour des questions qualitatives, ils estimaient que ce n'était pas des assez bons musiciens? Ou alors est-ce qu'ils voulaient te faire jouer avec des musiciens de studio et peut-être t'orienter différemment, musicalement parlant?
Moi, je pense que c'était plutôt ça.
Ouais. Vous avez peut-être...
Non, connaissant Herbert Léonard comme je le connais, ce n'est pas du tout son style de musique.
Ouais.
Qui est un fanatique de rhythm and blues et de rock'n'roll comme moi.
Ouais, ouais, donc tu penses
qu'on a commencé à faire du rock'n'roll, il aime les mêmes rockers que moi, et moi je ne le voyais pas à l'époque chanter Château Vallon.
Oui, c'est clair.
C'est pas son truc.
Ouais. Donc tu penses qu'en fait il souhaitait peut-être te réorienter vers une carrière un petit peu plus pop.
C'est ça, comme je dis, peut-être oui. Plutôt me faire tourner vers le British.
Alors là aussi tu l'as susurré à l'instant, mais donc du coup, malheureusement, en 1967, c'est la séparation. Donc peut-être double frustration pour toi, parce que de ton côté, tu refuses des points en or pour faire carrière.
Voilà.
Et dans la foulée, vous vous séparez. Quoi. Voilà. Donc c'est quand même
un
mauvais concours de circonstances.
C'est-à-dire, le jour où on s'est séparés, j'ai un coup de téléphone pour faire Bouton Rouge.
Ouais. Qui était une grande émission télé à l'époque.
Super émission de télé. Et j'ai dit, reformez-vous au moins pour un jour, pour au moins faire cette émission de télé. Je l'ai fait quand même avec un autre groupe.
Du coup, quoi.
Mais c'était pas ça, c'était plus les Rhythm Checkers.
Ouais, ouais.
Ils auraient bien aimé avoir les Rhythm Checkers.
Et qu'a été l'immédiat après Rhythm Checkers? J'ai noté que tu avais fait partie de groupes tels que les Roots, ou encore Urbain Tonon, dans un style radicalement différent.
Oui, ça c'était plutôt pour manger. J'avais un gros trou, comme tout le monde, ce qui arrive à tout le monde, et puis... Que faire si on veut rester musicien? Puis on m'a proposé de rentrer dans un orchestre de variété, qui était quand même premier free de jazz à Antibes, je n'en ai pas. Donc c'était pas n'importe quel groupe de variété. C'était quand même des musiciens au top. Mais c'était pas ma musique, quoi.
Ouais.
Et je suis pas resté longtemps.
Ouais. D'ailleurs, en 1969, tu fais une tentative. Tu essayes de reformer les Rhythm Shakers.
Et oui, là, c'est là où je récupère Jimmy Bock.
Ouais. Donc, c'est avec de nouveaux musiciens,
voilà,
et notamment donc Jimmy Bock,
Jimmy
que tout le monde connaît,
qui est un pianiste de talent. Qui faisait partie des derniers Shakers, donc, qui n'était déjà plus les Rhythm Shakers. Ouais. On essaye, mais sous une autre forme.
Ouais.
C'est-à-dire plus blues, plus rhythm and blues, plus...
Ouais.
Et c'était plus ce son.
Ouais. Ça n'a pas fonctionné.
C'était plus le son Rhythm Checkers.
Vous aviez un son garage finalement à l'origine, quoi.
Finalement,
c'est ça qui.
Moi, quand j'écoute en ce moment les groupes, pour moi, c'est ça. C'est...
Ouais.
En mieux parce qu'ils ont les meilleurs instruments.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et après cette ultime expérience avec les Rhythm and Shakers, tu as décidé de quitter le monde de la musique ou alors tu as quand même
pas
continué?
Du tout, non, tu as carrément continué. D'ailleurs, ouais. Le guitariste est parti avec moi,
ouais.
Avec un organiste anglais, mm-hmm. Chris Hadfield. Mm-hmm. Et puis on est parti avec deux frères qui avaient un autre groupe sur Strasbourg. Mm-hmm. Et là, on est direct parti en Espagne.
D'accord.
Et c'était en 68 et on s'est trouvé bloqué en Espagne parce qu'on n'avait plus d'essence pour rentrer.
Ok. Et peut-être question qui n'a rien à voir, mais en mai 68, tu étais en Espagne ?
Ah ouais.
Ouais.
C'est-à-dire on s'est retrouvé au Macumba à Montpellier, mais quand on a vu ce qui se passait, on a dit non, on va partir en Espagne, le temps que ça passe et on revient après.
D'accord. Donc, tu as continué la musique jusqu'à quand finalement ?
Officiellement en 76.
Ah quand même,
officiellement.
Ouais. D'accord, donc il y a quand même...
Mais j'ai joué jusque dans les années 80.
Ouais.
Mais en faisant une soirée par-ci, une soirée par-là, soirée d'accord. retrouvailles, soirée...
D'accord, mais c'était la musique à temps plein finalement jusqu'en 76.
En 76, à temps plein.
Ouais. Et toujours dans l'esprit rock'n'roll, blues.
Toujours dans cet esprit Rhythm and Shakers, toujours dans l'esprit Little Richard, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent que j'adore aussi, qui n'aime pas Gene Vincent.
Bien sûr. Et tu te produisais où alors ? En Alsace, toujours, tu arrives à te produire ici ou
en Alsace,
toujours en dehors?
Non, dans la région de Chaumont, dans la région d'accord. de Belfort. Il y avait toujours des boîtes à faire. Il y avait une super boîte à Audincourt qui s'appelait le Moulin Rouge, que c'était extraordinaire.
D'accord. Ok. Et tu as continué à revoir les anciens membres des Rhythm and Shakers, les membres originaux?
Un certain temps, puis après on s'est perdu de vue. D'ailleurs, le Hollandais est reparti à Hollande. Mm-hmm. Il a fait son magasin de vélo comme tous les Hollandais. Le dernier Allemand qui restait, je pense qu'il a ouvert une boîte sur le côté de Sarre-Louis.
D'accord.
Et le guitariste nous a quittés.
Mmh. Ok. Aujourd'hui, on est en 2007. Il y a encore plein de gens qui se souviennent de vous. Quoi. C'est incroyable. Alors comment tu expliques qu'il reste comme ça un noyau d'irréductible qui continue à, admirer les Rhythm and Shakers, à les écouter, ou qui essaye, comme c'est mon cas, de se procurer les disques. Mais bon, malheureusement, quand on voit les prix, c'est quasiment inaccessible, puisque tu me disais tout à l'heure que le 4 titres enregistré live à l'Olympia avait une valeur de 800 euros sur le marché actuellement.
Ouais, actuellement. Et le blanc dans les 350.
Ouais, donc c'est incroyable. Ça vous met une cote.
Il y a des collectionneurs qui achètent, se fixent un budget de temps en temps, et que moi j'en connais qui passent la paye.
Ouais. Et tu arrives à expliquer ça ? Je trouve que c'est quelque chose que tu trouves irrationnel, que finalement tu... Comment tu expliques ?
Moi je ne suis pas tellement pour ce genre de truc. Ouais. Comme j'ai dit, moi-même j'ai dû racheter mes disques parce que je les avais plus.
Donc c'était quand même paradoxal.
C'est quand même c'est aberrant.
Ok. Alors, avant de continuer, de terminer cette interview, on va se passer un nouvel extrait. On se fait plaisir, on se passe encore un morceau enregistré à l'Olympia, le même soir que Chuck Berry. Tu peux me parler de ce morceau ? Une reprise de Rhythm and Blues ? Qui avait été également reprise par Ike et Tina Turner de Fort Belle Manière.
Là, je préfère la version de James Brown, qui est une version complètement différente de truc. Parce que nous, on a préféré cette version parce qu'il n'y a pas de cuivre dedans et il n'y a pas d'orgue. Comme à l'époque, d'accord, on n'avait pas ça. Mmh. C'est-à-dire, on va prendre cette version.
Ok.
Qui, à l'original, est un disque de... je ne me rappelle plus.
La version la plus connue, c'est Ike et Tina Turner, qui était produite par Phil Spector. Et c'est vrai que pour l'original, j'ai également un trou de mémoire. Mais ça va nous revenir pendant qu'on l'écoutera.
Brothers, mais alors quel Brothers, je me rappelle.
Il y en a tant. Beaucoup de frères. Hein.
C'est pas les Right House, c'est pas les trucs,
Allez, on se passe le morceau, ça va nous revenir. Land of Thousand Dance, les Rhythm and Shakers.
All right.
comprends mieux pourquoi maintenant, on le sait, mais il y avait eu quand même 300 fauteuils de cassés ce soir-là à l'Olympia. On a une explication. Hein. D'ailleurs, si vous êtes chez vous, j'espère que vous n'en avez pas fait autant avec le salon de la grand-mère. Mais c'est vrai que ça donne une pêche d'enfer. Bouboule, c'est vrai que l'émission touche déjà à sa fin, ça passe vite. De cette période, qu'est-ce qu'il te reste finalement comme bon et mauvais souvenir?
Toujours l'amour du rock'n'roll, ouais. les souvenirs, finalement, c'est 2 ans de ma vie. Mm-hmm. Ces 2 ans, c'est des Rhythm Checkers. Mm-hmm. Je crois que ça, mm-hmm. c'est le plus grand souvenir mm-hmm. de ma vie, mm-hmm. et rencontrer tous ces gens-là. Ça, mm-hmm. je pense qu'en 2 ans, j'ai fait plus qu'en 30 ans de musique. Mm-hmm. Là, j'en ai 45 de musique, mm-hmm. parce qu'on a reformé un groupe, mm-hmm. reformé un truc. Mm-hmm. Malheureusement, ça marche.
C'est peut-être aussi la magie de cette période, justement, où il y avait cette insouciance. Quelque part, c'était... Est-ce que tu te rendais compte à ce moment-là de
non,
ce
non,
que tu vivais ?
Non, on ne demandait même pas ce qu'on allait toucher. Ouais. Mm. On ne savait même pas combien on avait d'argent, quoi, parce que c'est l'imprésario qui avait tout. Quoi. Mm. On dit, il me faut un peu, donner un peu d'argent, puis c'est bon. Hein, nous, on se demandait rien. Nourri, logé, blanchi.
Mm. Est-ce que tu aurais une conclusion pour terminer cet entretien ?
Ben, les gamins, mettez-vous au rock'n'roll, parce que je crois que c'est la musique qui restera toujours, éternellement. Mm-hmm. C'est un cycle éternel qui revient toujours. Mm-hmm. C'était il y a 40 ans, mm-hmm. c'était il y a 30 ans, mm-hmm. c'était il y a 20 ans, mm-hmm. ce sera encore dans 30 ans.
Mm-hmm. Tu as des jeunes autour de toi qui s'y intéressent, qui te posent des questions un peu, qui cherchent des conseils? Tu le constates, ça?
Oui. Mm-hmm. Mais plutôt des conseils de batterie.
D'accord. Donc plus.
J'étais quand même considéré comme un des meilleurs batteurs de l'époque. Ouais. Et... J'ai donné des grands chants, je ne peux pas. Mmh. Je ne trouve personne à ma hauteur pour le faire. D'ailleurs, je voulais déjà faire du duo, mais ils n'ont pas osé le faire, quoi, parce qu'ils avaient peur de chanter avec moi. Je dis, pourquoi tu as peur? Tout le monde sait chanter. Il faut juste travailler la voix, c'est tout. Parce que quand je parle, ma voix, elle n'est pas terrible.
Mais alors, quand tu chantes?
Mais plus elle est cassée, mieux elle est.
Allez, on se passe un nouveau morceau des Rhythm and Shakers, mais cette fois-ci enregistré en studio et pas en live. C'est un morceau, déjà on sent l'influence de James Brown à travers ce titre. Il s'appelle Cause I Need You, il sonne déjà bien Rhythm and Blues. Et on se retrouve juste après pour terminer l'émission et puis pour remercier quelques personnes. Allez, Cause I Need You, les Rhythm and Shakers.
Baby!
Because I Need You, le Rhythm and Shakers, et il va me falloir faire vite puisque on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Alors je vais aller au plus bref avec les remerciements d'usage. Alors tout d'abord, un grand merci à toi Bouboule d'avoir répondu présent à cette invitation. On va pas en parler parce que t'as pas été convié à la fête, mais c'est vrai qu'il y a une soirée justement consacrée au groupe de rock'n'roll alsacien sur Mulhouse là en fin de semaine. On va pas en parler. C'est incroyable qu'ils t'aient pas invité, alors que tu es peut-être l'artiste le plus représentatif de cette période. Donc, par contre, les vrais remerciements, ils vont directement à Monsieur Gérard Bickel, qui sévit également sur une radio. Hein, c'est dans les Rhône-Alpes, c'est chez Couleur FM. Sous le nom de Rocky Gonzalez, il a une émission qui s'appelle Surfing Bird, certainement en référence au morceau des Trashmen. Alors je voulais le remercier parce que c'est lui qui nous a mis en contact. C'est vraiment un passionné de rock'n'roll et de musique garage, donc je le remercierai jamais assez. Et surtout, je vais faire un petit peu de pub pour son site MySpace qui consacre au groupe les Rhythm and Shakers. Il suffit de taper sur vos claviers www.myspace.com/therhythmshakers et vous tombez sur ce site très 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 complet. Donc merci à toi Rocky. Et puis je voulais quand même signaler qu'il y a un livre qui existe, qui avait été écrit justement par Gérard Bickel, dit Rocky, ainsi que Thierry Liesenfeld, qui était également notre invité dans l'émission il y a de cela quelques années. Le livre s'appelle Le Temps des Copains, c'est aux éditions de La Nuée Bleue, et puis il relate justement de toute cette période de rock'n'roll en Alsace au début des années 60, d'ailleurs durant toute la décennie. Voilà, merci encore. On termine, on n'a plus beaucoup de temps, il ne reste plus que quelques secondes. Merci à tous. Je vous rappelle le site de notre émission sur laroute66.free.fr. Vous retrouverez bientôt un reportage sur la venue de Bouboule. Je n'aurai qu'un mot à dire pour finir cette émission. Vive le rock'n'roll et vive les Rhythm and Shakers.
Allez, salut à tous et bonne route.
Vive le rock'n'roll et vive les Rhythm Shakers. I'm on a town in Mary get down.